Évangile selon Marc, chapitre 1, versets 14 à 20. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle de Dieu et disait « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. » Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. En passant au bord de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient leur filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite et je vous ferai devenir pêcheurs d'humains. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. En allant un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était aussi dans leur bateau à réparer les filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans le bateau avec les employés et ils s'en allèrent à sa suite.
Au début, tout se passe comme d'habitude. Une journée de travail ordinaire pour les pêcheurs de la mer de Galilée, celle qui est aussi appelée dans la Bible « mer de Tibériade » ou « lac de Génézareth ». Oui, parce que c'est un lac et pas une mer ouverte. Ou encore « lac de Kinneret ». Simon et André, deux frères, pêchent. Ils lancent le filet dans ce très beau geste large et puissant que vous connaissez peut-être, celui de la pêche à l'épervier. L'épervier étant le filet, pas l'oiseau. Et ils le lancent, ce filet, afin de pêcher des sardines. Oui, dans le lac de Galilée, dans la mer de Tibériade, on pêche des sardines. Des sardines d'eau douce, qui composent le menu quotidien des riverains du lac. Un peu plus loin, Zébédée, patron de pêche, se trouve dans sa barque avec ses deux fils, Jacques et Jean, et ses employés. Jacques et Jean réparent les filets qu'il est important de tenir en bon état afin qu'ils puissent durer assez longtemps. Bref, une journée ordinaire. Peut-être de temps en temps un coup d'œil pour surveiller le vent, les nuages, car les tempêtes qui dévalent des hauteurs environnantes, la mer de Galilée se situe à moins 200 mètres sous le niveau de la mer. Eh bien, ces tempêtes qui dévalent sont très violentes sur le lac. Une journée ordinaire, comme la journée précédente, celle de la veille, et nul doute que celle du lendemain sera tout à fait semblable. Une inscription continue, que personne ne remet en cause. Certainement, aucun de ces hommes ne se demande ce qu'il va devenir. Tout semble déjà tracé pour eux. Oh, peut-être s'interrogent-ils quand une tempête emporte une barque, des pêcheurs, des amis, ou détruit les filets. Ou quand des troubles politiques surviennent, car l'Empire de Rome a la main lourde sur les territoires occupés. Mais sinon, chaque jour, Simon et André pêchent. Et un jour, Jacques et Jean prendront la suite de leur père comme patron de la barque. Que vais-je devenir ? C'est une question de temps d'incertitude ou de temps de crise. Quand demain est indiscernable, quand le monde a perdu sa forme familière à la suite d'un accident, d'un deuil, d'une maladie, d'une rupture, d'une perte de son travail. C'est une question qui se lève quand l'horizon est indistinct, que ce soit dans la jeunesse, même dans l'adolescence, comme la vôtre à tous les trois. Et il arrive de s'interroger sur son avenir entre les choix, les avis, les impératifs, les conseils et les désirs encore flous. C'est une question aussi qu'on peut se poser beaucoup plus tard, quand l'âge vient altérer les facultés, raréfier les possibilités, accentuer la solitude, menacer l'autonomie. Mais cette question rôde également de manière collective. Qu'allons-nous devenir ? Entre coronavirus et changement climatique, entre crise économique et bruit de guerre, défis technologiques et interrogations éthiques. Certains veulent maintenir autant que possible ce qui était, d'autres cherchent comment s'adapter, d'autres encore souhaitent une profonde transformation des manières de vivre et des sociétés. Que vais-je devenir ? Qu'allons-nous devenir ? La question est souvent anxieuse, voire cruelle, accompagnant une sensation de résignation ou d'enlisement, la sensation d'être englouti ou recouvert, une expérience d'extrême confinement, une impossibilité de se trouver ou de se rencontrer soi-même. Et ce jour-là, oui, au bord de la mer de Galilée, tout est bouleversé. Simon et André laissent leur filet. Jacques et Jean laissent leur père, la barque et les employés. Une parole leur a été adressée, qui justement leur indique un devenir inattendu et même inouï. Venez à ma suite et je vous ferai devenir pêcheurs d'humains. Jésus est passé par là. Pêcheur d'humains. L'expression donne à penser. Elle oblige à penser, comme bien des mots, des expressions et des récits de la Bible. Simon, André, Jacques et Jean savent pourquoi ils pêchent. Il faut attraper des poissons pour qu'ils soient mangés. Triste sort que celui des sardines du lac de Galilée. Elles n'ont aucune chance. Une sardine n'est pas un cachalot. Herman Melville n'aurait pas pu écrire Moby Dick en s'inspirant des pêcheurs du lac de Tibériade. Ce qui est certain, c'est qu'il ne s'agit pas de pêcher des humains pour les faire périr. Au contraire, Jésus qui proclame la bonne nouvelle de Dieu, qui annonce que le royaume de Dieu s'est approché, ne parle et n'agit que pour le bien des humains, pour les faire vivre. Devenir pêcheur d'humains, ainsi, c'est les sortir de l'eau, ces humains. Leur donner de l'air, ne pas les laisser dans un état semblable à celui des poissons, muets, et comme des proies dont la destinée, dont le destin est d'être attrapé par des filets pour être dévoré. Et Louise l'a dit tout à l'heure, être pêcheur d'humains, en fait, c'est être un repêcheur d'humains, comme on dit repêcher pour donner une chance ou une deuxième chance. À ceux qui deviendront ses disciples, Jésus ne dit pas « Je vous ferai devenir de super humains », même pas de super croyants. Il ne leur dit pas « Je vous donnerai une foi à déplacer les montagnes, je vous transformerai en ange du ciel ». Pas du tout. Je vous ferai devenir des pêcheurs d'humains. Cette existence qui devient la vôtre sera au bénéfice d'autrui. Ce désir d'être vivant, cette énergie de vie qui vous habiteront, vous les partagerez avec d'autres qui sont privés de voix, de parole, privés d'air, de souffle, d'autres qui sont menacés d'être attrapés dans des filets de fausses promesses, de marchandages, de paroles vaines, de tous les bonimenteurs qui s'expriment à la surface de la terre. Pêcheurs d'humains, c'est l'affirmation de la primauté de l'humain sur la religion, sur les doctrines, sur les idéologies. D'abord les humains, afin qu'ils soient vivants, qu'ils deviennent vivants. Jésus, qui proclame la bonne nouvelle de Dieu, qui annonce que le royaume de Dieu s'est approché, ne parle et n'agit que pour le bien des humains, pour les faire vivre. Et c'est à cela même que Jésus appelle non seulement Simon, André, Jacques et Jean, mais chacun de ceux qui entendent, d'une manière ou d'une autre, son appel à devenir. Et les quatre hommes répondent à cet appel en suivant Jésus. Aussitôt, ils le suivirent. Manière de dire qu'ils choisissent d'accrocher, d'appuyer leur vie, leur être, à cette parole qui les reconnaît, à cet appel qui les saisit. C'est cela, le genre de réponse que la Bible offre. Une réponse, pas tant à une question, mais une réponse à un appel, une responsabilité d'humain pour les humains. C'est une réponse qui engage à l'existence, à aller plus loin, autrement que chacun est au moment où il entend l'appel. Parce que dans cet appel, il est question de vivre et de faire vivre. Et faire vivre, c'est une autre manière de dire aimer. Celui ou celle qui répond devient alors capable d'écrire son histoire, c'est-à-dire de ne plus la laisser être écrite, cette histoire, seulement par le flux des événements ou par des choix qui sont faits par d'autres. Simon et André laissent leur filet. Jacques et Jean laissent leur père. La réponse à l'appel s'appuie sur la confiance en cette parole d'appel et de promesse, parole entendue comme s'adressant à soi, à toi, à moi, parole d'avenir, parole de devenir. Pêcheur d'humains, ce n'est pas un métier. Jésus n'est pas un recruteur, ni un chasseur de tête. Et d'ailleurs, aucun des quatre n'est particulièrement compétent à autre chose que la pêche à la sardine. Ils ne sont pas spécialement sages, ni même spécialement particulièrement pieux. Pêcheur d'humains, c'est une vocation. Une autre manière de considérer à la fois son métier, mais aussi toute sa manière de vivre, soi-même et autrui. Une vocation qui s'ancre dans la singularité de ces pêcheurs de poissons, chacun désigné par son nom, en leur permettant de comprendre ce à quoi ils sont appelés. D'autres peuvent recevoir cette vocation, entendre cet appel en étant enseignants, et ils deviennent enseignants d'humanité. D'autres en étant soignants, et ils deviennent soignants d'humains. D'autres en étant mécaniciens, et ils deviennent réparateurs d'humains. Parce que c'est déjà ce que le Christ aura fait pour eux, de les enseigner, de les soigner ou de les réparer. De même que Jésus a commencé par pêcher Simon, André, Jacques et Jean, en leur sortant la tête de l'eau de leur lac quotidien pour les mettre au large dans l'humanité, la leur et l'humanité dans son ensemble. Jésus le Christ pêche et envoie pêcher, non avec des filets, mais avec cette parole de bonne nouvelle, parole d'évangile, une parole de grâce, une parole gratuite qui ne se fait pas payer et qui n'a rien à vendre. Le temps est accompli. Le royaume s'est approché de Simon, d'André, de Jacques et de Jean, qui sont appelés à aller à l'eau, les eaux troubles, les eaux boueuses, les eaux vaseuses, à la rencontre des humains qui ne sont encore que poissons, pour les repêcher, pour les en sortir de ces eaux, pour les accompagner au grand air, dans le vent. Ainsi le royaume s'approche de tous ceux qui entendent l'appel et y répondent, chacun à leur manière, en gardant, en chérissant l'écho, la trace de cet appel qui les envoie participer à l'œuvre divine de création. Ceux qui gardent et chérissent l'écho, la trace de cet appel, en célébrant par toute leur vie l'inconditionnelle bonté de Dieu. Amen.